de dire, voilà, eh bien, je vais vous donner une recette magique. Alors là, tout le monde dit, non, Fred, ça n'existe pas. Ben non, ça n'existe pas, ce n'est pas une recette magique. Mais j'ai une autre métaphore, et je suis venu ce matin avec une première Bible, grosse Bible, d'accord? Vous la voyez tous? Bible, alors on l'appelle la Bible Thomson, parce que c'est une Bible d'études. Moi, j'ai pas mal de papier, j'ai des crayons dedans, j'ai surligné, etc. J'en ai une autre qui est un petit peu plus discrète. J'ai celle-ci, qui est un peu plus petite, avec une petite fermeture, un peu plus petite. Hein. Voilà, on peut la mettre dans un sac, d'accord? Ça en fait deux, vous les voyez bien? Pour les commerciaux comme moi, eh bien, des fois, eh bien, il y a celle-là, la Bible des Gédéons. Alors celle-là, c'est un petit blanc, comme ils l'appellent les Gédéons. C'est celle qu'on trouve dans les salles d'attente ou dans le milieu médical. Il y a le petit bleu. Il y a des petites Bibles comme ça, bleues. Mais c'est une Bible. C'est des Nouveaux Testaments. C'est le Nouveau Testament avec des psaumes dedans. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Pour les commerciaux un petit peu plus geeks, eh bien, il y a ça. Dedans, moi, j'ai la Bible dans mon iPhone ou dans mon téléphone, parce que je sais qu'on ne doit pas dire iPhone. Voilà. J'ai une autre Bible ici. D'accord? Je me balade avec cinq Bibles. Une, deux, trois, quatre, cinq. Cinq Bibles. Est-ce que ça fait de moi un meilleur chrétien? Non? Oui? Exactement. Élodie a dit exactement la chose que j'attendais. Si tu ne les lis pas, ça ne sert à rien. On peut en avoir des tonnes et j'en ai plein. Alors, si jamais vous voulez des petits blancs, j'en ai tout un sac à la maison. Dites-le moi. Mais ça ne fait pas de moi un meilleur chrétien. Dernièrement, on était de mariage, là, il y a un mois de ça. Mon neveu se marie et mon neveu est quelqu'un qui, lorsque l'on était jeune ado, il a 4 ans de moins que moi, mon neveu. Hein, donc, il a 40 ans, j'en ai 44. Donc, il se mariait et c'est un peu mon petit frère. On était toujours ensemble quand on était jeune. Et il s'est marié, enfin. Grande joie dans la famille, parce que vraiment, c'était une journée bonheur pour moi. J'ai même gagné la jarretière de la mariée. Voilà. Et à un moment, il m'appelle, il me dit Fredo, parce qu'en Normandie, tout le monde m'appelle Fredo. Fredo, je voudrais que tu lises un passage à l'église. On a un curé qui est moderne. J'ai dit que dans la famille, il y avait plusieurs pasteurs, etc. Il est d'accord pour que, bon, y ait un échange, etc. etc. Donc, voilà. Et puis, il me dit, voilà, il y a deux personnes qui vont lire un passage. Et l'autre personne, donc c'est un de ses meilleurs amis. Et il me dit, mon meilleur ami, quand je lui ai lu le passage qu'il allait lire, il m'a dit, écoute, Gérald, je veux bien le lire, mais. Je vais me retenir à quatre pour ne pas éclater de rire. C'était, vous savez, le fameux cantique des cantiques des cantiques, avec la gazelle qui saute sur la montagne, etc., etc. Bon, les cantiques des cantiques, c'est très poétique. Et mon neveu était quelqu'un qui venait à l'église avec moi. Il venait aux réunions de jeunes. On allait ensemble aux réunions de jeunes à Bernay à l'époque. Et donc, il a arrêté. Et à un moment, il me dit, mais tu sais, Fredo, moi, j'ai une Bible à la maison. Bon, c'est vrai que je la lis plus, mais je la connais un petit peu. Mais voilà, sa Bible, elle prend la poussière. Et donc, cette Bible, elle sert à rien. Donc là où j'ai voulu en venir ce matin, dans le trio gagnant, c'est que j'ai envie de vous parler de maturité ce matin. J'ai envie de vous parler de maturité spirituelle. La maturité est quelque chose qui est importante dans la vie du chrétien. La maturité est forcément quelque chose dont on doit se soucier chaque matin quand on se lève. Ça va jusque-là? Ouais? Je vois beaucoup de bras croisés. Je vais faire des croisés. Mais la maturité est quelque chose qui... doit être une constante à la fois chez le chrétien, mais quelque chose dont on doit se dire le matin quand on se lève, voilà. Est-ce que je suis mature? Est-ce que j'ai gagné en maturité? Est-ce que j'ai gagné en croissance? On n'a pas utilisé le mot du groupe croissance du mardi soir à 20h, pour ceux qui le souhaitent. C'était le petit moment pub. Mais la croissance est quelque chose qui doit être quotidien, qui doit être minute par minute. On se doit, nous, chrétiens, de continuer à être dans notre croissance. Et c'est pour ça que, eh bien, la formule magique que je vais utiliser ce matin, c'est ce fameux verset qu'on utilise tous. Vas-y, ma chérie. 1 Corinthiens 13, 3. Alors, le 1 Corinthiens 13, tout le monde le connaît, hein, c'est le chapitre de l'amour. Chapitre de l'amour, dernièrement, en groupe croissance, j'ai fait une étude sur ce chapitre-là, où on l'a disséqué verset par verset, et on a vu vraiment toute la trame que Paul a utilisée dans ce verset. Elle est magnifique, cette trame. Prenez-le verset par verset. Et le verset 13. Il dit maintenant donc ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Je n'ai pas changé là parce qu'il y a en fonction des versions, j'ai changé le premier, la charité en amour. J'aurais dû changer les deux, j'ai oublié, désolé. Mais en fonction des versions, eh bien, il y a l'amour, c'est l'amour, la charité. Et là où je me suis un peu dit, tiens, est-ce que c'est vraiment une formule magique? C'est tout simplement parce que quand on va dans Thessaloniciens, voilà, je vais réussir à le dire, Cassandre, s'il te plaît, un Thessalonicien, le chapitre 1, le verset 3, Paul s'adresse donc non plus aux Corinthiens, mais aux Thessaloniciens. D'accord? Nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité ou de votre amour et la fermeté dans votre espérance. Paul avait quelque chose de récurrent dans sa façon de parler. Bon, là, c'est deux exemples dans la parole, mais il a utilisé la même formule chez un peuple et puis dans l'autre. Alors, est-ce que c'était un passage de sa vie où il était vraiment à cheval sur la foi, l'espérance, l'amour? Mais le fait est que, eh bien, il a utilisé la même formule, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté dans votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. La foi, l'espérance, l'amour. Je ne vais pas revenir sur la foi, parce que j'ai prêché à plusieurs reprises sur la foi. Mais c'est vrai que la foi est quelque chose qui est importante aussi. Alors tout est important. C'est vrai que je peux le dire à chaque fin de phrase, c'est important, comme Aurélie disait tout à l'heure, je ne vais pas dire ensuite, parce que je l'ai déjà dit. Donc je vais arrêter de dire que c'est important. Parce que c'est vrai que là, on est sur des termes bien précis, et la foi, en l'occurrence, dans Hébreu, il nous est bien dit, sans foi, on ne peut être agréable à Dieu. On ne peut pas être agréable à Dieu. C'est catégorique. On ne peut pas dire autre chose. Sans foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Ça veut dire qu'il faut vraiment avoir cet exercice quotidien de se dire, est-ce que j'ai une maturité? Ma maturité va passer par la foi. Ma maturité va passer par mon espérance. Ma maturité va passer par mon amour qui va grandir. Ça va? Ça va? Jetez à l'œil, Antonia, jetez en l'œil. La maturité. On a tous des moments d'épreuve. Et lorsqu'on prend comme ça, et c'est vrai que là, ça aussi, c'est quelque chose dont je parle assez souvent parce que on est tous, pour la plupart, qui en ce moment n'a pas d'épreuve? Vous avez tous des épreuves, on a tous des moments difficiles. On a tous des moments où on se dit waouh, qu'est-ce que je vais faire là? Où je vais? Comment je vais réagir? Comment est-ce que je vais gérer ce moment d'épreuve? On a tous ça. Et la formule magique, elle est là. La foi, l'espérance, l'amour. La foi, c'est de dire, bah, Seigneur, écoute-moi, je suis dans un moment d'épreuve, eh bien, je vais y aller. J'y vais, tu m'as promis que, tes promesses sont là. Tu m'as promis que dans l'épreuve, tu seras avec moi. Tu le dis dans bien des passages dans la parole où tu dis, chaque jour, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Ma foi, elle est là. Elle est de dire, déjà, dans l'épreuve, Dieu est avec moi. Même quand je ne suis pas dans l'épreuve, Dieu est avec moi. Mais d'autant plus quand l'épreuve est là. Tout simplement parce que, eh bien, on a Dieu qui est là et qui regarde notre épreuve. Alors, je rappelle une chose, ce n'est pas Dieu qui envoie l'épreuve. D'accord? Dieu va nous aider à gérer l'épreuve. Mais ce n'est pas lui qui envoie l'épreuve. Il va nous aider à être là et à nous soutenir. Ce qu'il veut voir, c'est ce relationnel et c'est de dire, voilà, ma foi, elle va être de dire, Seigneur, eh bien, j'ai cette foi et cette espérance en toi. L'espérance, c'est de dire, Seigneur, tu vas me sortir de ce pétrin. Dernièrement, on a vécu une expérience avec Pascaline et avec les enfants d'ailleurs. C'est pas que avec la famille, c'est la famille, c'est pas que Pascaline et moi. Pascaline est rentrée un vendredi soir et elle avait un problème de santé. Problème de santé, elle l'a déjà eu. Quand on a ce problème de santé-là, on sait pertinemment que c'est antibiotique. D'accord? Avec analyse, etc. Donc, il faut aller au laboratoire d'analyse. Et bon, bref, bon, rien de grave, hein, je vous rassure. Mais c'est douloureux. C'est souvent un problème de femme. Mais voilà, ce problème était là. Et donc, Pascaline me dit, demain matin, je vais aller voir Charles. Donc, Charles, c'est oui, notre médecin, c'est son frère. Et je vais aller voir Charles et je vais aller pour une ordonnance, pour aller au laboratoire, pour avoir mes antibiotiques, etc. Ça recommence. Et puis, effectivement, c'est devenu, c'est comme ça. Et puis après, on s'est dit, mais on peut prier pour toi. Et déjà, la première des choses, c'est qu'on n'est pas dans le bon, puisque on a dit, après coup, après l'ordonnance, après les antibiotiques, après le médecin, on a dit, mais on peut prier pour toi. Et donc, Pascaline continue à souffrir. Alors, ça fait souffrir la nuit et le jour. Hein. Ce n'est pas un truc qui s'arrête dans la journée. Ce n'est pas 9, 12, 14, 18. C'est vraiment la nuit, etc. Et le soir, avant de se coucher, Nicolas lui dit, mais maman, je vais prier pour toi. Et donc, Nicolas prie pour Pascaline. On a un petit bonhomme, on a deux enfants qui pensent vraiment à la prière à partir du moment où il y a quelque chose. Ils disent, voilà, on va prier. Logique d'enfant. On leur explique que voilà, Dieu répond à la prière. Donc pour eux, c'est... Ou d'ados, je ne vais pas dire des enfants parce que je vais me faire gronder après. Des ados. Et donc, Nicolas prie pour Pascaline. Et puis après, arrive le moment où on va se coucher. Et je dis, Pascaline, je vais prier pour toi. Instantanément guérie. Pascaline a été instantanément guérie. Elle ne s'est pas levée la nuit. Elle n'a pas eu de douleur. Et le lendemain, elle s'est levée et elle dit, j'ai pas mal, j'ai plus mal. Qu'est-ce que je fais? Et si ça revient? Et ouais, et si ça revient? Moi, je lui dis, fais ce que tu veux. Hein. Je me suis dédouané, j'ai dit, fais ce que tu veux. Elle me dit, je vais quand même aller chercher l'ordonnance au cas où. Au cas où. Les au cas où dans le chrétien, chez le chrétien, c'est pas bon. Et donc, elle va voir son frangin. Elle revient avec son ordonnance. Elle dit, maintenant que j'ai l'ordonnance, j'ai toujours pas mal. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je garde l'ordonnance pour la prochaine fois? Est-ce que je vais quand même chercher les antibiotiques au cas où? Et donc, t'es allée chercher les antibiotiques? Non. Oui. Elle est allée chercher ses antibiotiques. Elle est revenue avec ses antibiotiques. Toujours pas mal. Elle dit, maintenant, je fais quoi? Je dis, t'es guérie. Tu gardes tes antibiotiques pour la prochaine fois. Mais il n'y aura pas de prochaine fois puisque t'es guérie. Et la logique, elle n'est pas bonne. C'est là où on se dit, mais bon sang, où elle est notre foi? Où elle est notre espérance? On est surpris de voir des guérisons. On est surpris, j'ai été surpris, on a été surpris de se dire, eh, je suis guéri. Oui, on a prié. Oui, mais d'habitude, on prie, on n'est pas guéri. Attention, on a eu des guérisons. Hein. Je ne veux pas me faire passer pour un mauvais chrétien. Je crois en Dieu, j'ai foi en Dieu, j'ai de l'espérance en Dieu, j'ai de l'amour aussi. Mais c'est vrai que sur ce coup-là, en plus, ça, bon, c'est une infection urinaire, voilà, bon, bref, je vais le dire. C'est douloureux, je ne sais pas, vous les femmes qui en avez eu, je ne sais pas s'il y en a qui ont eu ça, mais a priori, ça, voilà, on se lève toutes les 2 minutes pour se dire, tiens, je vais faire pipi, j'en arrive pas. Bon, bref. Et là, on était scotché, mais c'est une belle expérience, ça a été une belle expérience. Parce que dans l'épreuve, Dieu nous a regardés, il a dit, alors maintenant, comment vous allez réagir? Je vais vous donner la guérison, tiens, boum, Pascaline, t'es guérie. Vas-y, comment tu réagis maintenant? On aurait dû dire dès le départ, ok, c'est bon, je suis guéri, basta. Mais sur ce coup-là, connaissant Pascaline comment elle souffre, on se dit, ouais, mais bon, j'ai pas envie de me retrouver à demain dimanche et puis devoir aller soit aux urgences ou etc. Donc voilà. Elle est où ta foi? Elle est où notre foi? Où est-ce qu'elle est notre foi? À quel niveau de foi est-ce que l'on en est? Est-ce qu'on est capable de se dire, Seigneur, voilà, moi je vais prier pour un malade et puis il va être guéri instantanément. Mon espérance, c'est de dire, voilà, Seigneur, j'espère en toi et je sais pertinemment que mon espérance, c'est de dire, voilà, tout ce que tu m'as donné, tout ce que tu as dit, tout ce que tu as fait, tout ce que tu as écrit dans ta parole, c'est pour moi. C'est ça mon espérance. Et là, j'avais marqué, j'aurais au moins trois amens. J'en ai eu un. Deux. Non, 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 je n'étais pas trop. Non, ouais, non, mais ne m'en balancez pas trop parce qu'après je vais m'enorgueillir et c'est. Dans l'épreuve, ce n'est pas l'épreuve le plus dur. C'est l'attitude. C'est notre attitude qui est à faire que dans l'épreuve, on va pouvoir agir comme il faut ou pas. Donc c'est dur de dire ça. Dire dans l'épreuve, ce n'est pas l'épreuve le plus dur. Attention, il y a des épreuves qui sont super difficiles. Hein. C'est sûr que quand on commence à partir dans la maladie ou dans des problèmes hyper financiers, etc., etc., voilà, c'est vrai que l'épreuve, elle est dure. Mais l'attitude, elle est de dire que, eh bien, Seigneur, moi, j'ai cette espérance. J'ai ma formule magique, foi, espérance, amour. Ça va? Et donc, pour revenir à la maturité, eh bien, il y a forcément un processus. il y a forcément un processus. Il y a ce processus de se dire, « Seigneur, moi, pour atteindre cette maturité, eh bien déjà, il faut que j'en prenne conscience. » Un, il faut que je me dise, « Seigneur, oui, je t'ai donné ma vie. Oui, j'ai pris le baptême, je suis baptisé dans le Saint-Esprit. J'ai fait tout ce que tu m'as préconisé comme maturité. » Cette croissance, toujours le mardi soir à 20h, ici au phare. Et donc, le processus, c'est de se dire, « Seigneur, moi, je veux grandir. » Je veux grandir. Et tout à l'heure, je vais vous montrer une dia où on a un processus, où on a trois, je vous le montrerai tout à l'heure, je ne vais pas anticiper dans mon prêche. Alors, il y a des personnes qui se disent, mais oui, mais d'accord, je vais rentrer dans cette maturité, mais qui je suis, moi, pour que le Seigneur se serve de moi? Qui je suis? Donc déjà, la deuxième des choses, un, j'accepte, je prends conscience de la maturité. D'accord, on pourrait même deux points au dire. Je l'accepte, je prends conscience, ou dans l'inverse, je prends conscience, j'accepte la maturité, et de me dire, Seigneur, je vais travailler pour toi pour grandir. La troisième des choses, c'est de prendre confiance, et confiance en soi, avoir cette espérance. Dernièrement, je vous l'ai déjà raconté, mais j'ai eu ce jeune qui m'appelle, il me dit, voilà, j'ai fait des choses tellement mal que ce n'est pas possible que Dieu me pardonne. Mais si, Dieu est un Dieu de pardon. Les choses mal qui sont là, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a le diable qui est assez malin pour s'être fait oublier. Il fait des choses qui sont mauvaises dans le monde et les gens viennent vous voir en disant « Ouais, s'il y avait un Dieu, il ne se passerait pas ça dans le monde, etc. » Et ce jeune, il m'a dit exactement la même chose. Il me dit « Oui, si Dieu vraiment était là avec moi, je n'aurais pas fait ces choses. » Je dis « Mais ce n'est pas Dieu qui a voulu que tu fasses ça. Attends, on va remettre les choses dans le bon ordre. Si tu crois en Dieu, tu crois au diable. Il y a cette notion de bien et de mal. » Et le mal, ce n'est pas Dieu. Dieu, il a envie que tu t'en sortes, il a envie que tu avances, il a envie que tu puisses sortir de ça. Et quand tu as une épreuve qui arrive, Dieu a forcément la solution. Et là, tout le peuple dit, ouais, c'est dur. Dieu a forcément la solution quand tu es dans l'épreuve. Et on vient de le vivre. Et vous l'avez vécu. Qui n'a pas vécu un jour une épreuve où il ne s'en est pas sorti? Alors effectivement, on peut avoir des épreuves qui continuent à durer et qui sont là. Et chaque jour, on dit, pourquoi ? C'est quand qu'elle va se terminer, cette épreuve ? Mais elle est toujours là. Mais Dieu est en train de te jauger et de voir ton espérance, de voir ta foi, de voir comment tu vas réagir. Est-ce que tu vas te balader avec ton ordonnance, avec le « au cas où » ? Tiens, au cas où. Au cas où, j'ai mal ? J'ai pas mal ? Non ? J'ai mon ordonnance ? Non, j'ai pas mal. Mon ordonnance, monsieur le pharmacien, bonjour, je vous donne mon antibiotique, j'ai mon antibiotique. Voilà, je rigole, hein. Désolé Pascaline, c'est vrai que c'est risible sur le coup, parce qu'après coup on en rit, mais sur le moment on se dit, mais bon sang, zut quoi, zut. Donc la maturité elle est là, et on continue à apprendre, chaque jour on continue à apprendre. Et c'est beau, cette expérience elle est vraiment bénéfique, c'est pour ça que je me permets un peu de prendre un peu un ton ironique sur cette expérience, mais elle a été très bénéfique parce que la prochaine fois, eh bien, on aura appris quelque chose. Imaginons qu'il y a un autre problème, parce qu'on ne va pas dire que c'est le même problème, il est fini celui-là, hein, d'accord ? Et on a eu la guérison. Un autre problème arrive, on ne sait pas. Eh bien, on va pouvoir se souvenir parce que la foi se souvient des victoires du passé. La foi se souvient des victoires du passé. Et j'aime bien cette formule. La foi se souvient des victoires du passé. Inscrivez-la, ça. Non ? Bon, non. La foi se souvient des victoires du passé. Alors, je reviens à mes points. Donc, la première chose, dire, OK, Seigneur, il faut que je mature. Ensuite, il faut que j'accepte cette maturité. Il faut que je prenne conscience et confiance en moi. On peut mettre aussi deux points, conscience et confiance en moi. Ça veut dire de me dire que, Seigneur, quand je dis qui je suis pour que tu te serves de moi, je ne vous cache pas, c'est vrai que pour ma part, avec Pascaline, on a un appel sur notre vie, pour le service pour Dieu. Et c'est vrai qu'il y a des moments où je me dis, mais Seigneur, pourquoi moi ? Pourquoi moi ? Il y en a d'autres qui sont meilleurs que moi. Mais non, le Seigneur, il n'est pas là pour prendre des gens parfaits, il est là pour prendre des gens qui sont imparfaits, sur lesquels il va changer les imperfections et de les mener dans une voie qui va être juste. une voie de guérison, une voie de délivrance, s'il le faut, mais il va les mener dans un endroit où ils vont pouvoir gagner en maturité, gagner dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour aussi. Parce que l'amour, je vais y venir juste après. Mais c'est là où Dieu veut dire, voilà, ce point où tu vas prendre conscience et confiance en toi, donc points 3 et 4, où tu vas prendre conscience et confiance que tu es la personne que j'ai besoin. Et dans la Bible, il est bien dit que dès le sein de ta mère, Dieu avait des plans pour toi. Alors qui je suis, moi, pour contrecarrer Dieu, pour le contredire? Il dit, Seigneur, tu te trompes. Moi, alors, je vais dire n'importe quoi, mais imaginons qu'il y a quelqu'un qui, voilà, un appel de prophète, qui va voir Dieu et dire, moi, prophète? Et Seigneur, ça va pas, là? Et qui on est pour aller contredire Dieu? Qui tu es, toi, pour dire, Seigneur, le plan que tu m'as mis là, je le veux pas. Parce que quoi qu'il arrive, le Seigneur fera en sorte que tu aies un moyen de... Alors, on peut prendre des chemins contournés, hein, mais forcément, je l'ai déjà dit, ça, du point A au point B, on peut passer par un point C, D, E, F, G, et on va arriver au point B, hein, malgré tout. Donc, c'est là où Dieu nous veut. C'est là où Dieu veut que l'on puisse prendre cette confiance en nous. Et je peux très bien prendre l'exemple, et je crois que je l'ai mis après, Cassandre, ça, juste après, Nénette. Encore une fois. Après, encore une fois. Non, ben alors avant. L'exemple de Pierre, je vais le prendre comme ça. L'exemple de Pierre, quand Jésus dit à Pierre, voilà, Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je fonderai mon église. Est-ce que vous avez déjà détaillé un petit peu la vie de Pierre, son caractère? Un mec orgueilleux, hein? Orgueilleux, impulsif. Il a eu honte de Jésus quand même, hein? Le jour où Jésus a été embarqué, il a dit, je ne le connais pas, lui, moi. Et il avait vécu plusieurs mois avec. Pardon? Ouh, Rita, tu sors. Mais, donc Pierre, quand Jésus a dit, Pierre, tu es Pierre, d'accord? Pétros, le prénom Pierre, Pétros. Et sur cette pierre, Petra, sur cette pierre, là, c'est vraiment une image d'un homme. Alors, j'ai même la définition ici. Alors, où est-ce que je l'ai mise? C'est un roc, c'est une falaise ou une chaîne, mais c'est même la métaphore de l'homme comme un roc en raison de sa fermeté et de la force de son âme. Petros, le prénom, Pierre, tu es Petros, et sur cette Petra, je ferai mon église, je bâtirai mon église. Et Pierre, il aurait très bien dû dire, mais vous vous rendez compte quand même la parole que Jésus venait de lui dire? Il dit, sur toi, sur cette pierre que tu es, je vais fonder mon église. Et là, Pierre, je ne sais pas s'il a pris conscience de ce que venait de lui dire Jésus. Quoi? Moi? Alors, soit il dit, on va revenir à l'homme orgueilleux, il dit, ouais, c'est moi qui vais bâtir l'église. Et puis là, il va s'enorgueillir. Ou alors, si vraiment il a pris conscience, il va dire, mais qui je suis, moi, Seigneur? Attends, tu t'es trompé de Pierre, c'est l'autre. Peut-être qu'il y avait un autre Pierre. Il dit, non, c'est pas moi. Jésus ne se trompait pas. Dieu ne se trompe pas. Si vous n'avez pas pris conscience de ça, prenez-en maintenant conscience. Dieu ne se trompe pas. Si ce matin tu es là, Dieu ne s'est pas trompé. Je vais le refaire. Si tu es là ce matin, Dieu ne s'est pas trompé. Ça va ? Vas-y, Nanette. Voilà. L'homme est formé d'un, comme vous le savez, d'un corps, d'une âme, et d'un esprit. Et la jonction de ça, c'est notre formule magique. Là, c'est l'amour, la foi, l'espérance, l'amour. Et ce petit graphe qui est là, ça nous donne une autorité spirituelle. Si on est bien dans chacun des domaines que j'ai cités, corps, âme, esprit, espérance, foi, amour, donc il y a 6 points qui sont là, eh bien on a une autorité spirituelle. Ça veut dire qu'on va gagner là des points et on va continuer à grandir parce que la maturité, attention, je ne parle pas de maturité physique, la maturité physique, c'est une maturité qui s'arrête. Arrive un moment où vous ne grandissez plus. J'espère que j'ai déçu personne là. Une chance parce que je ferai 4 mètres. Et la maturité spirituelle, il y a un point de départ, mais il n'y a pas de point d'arrivée. La maturité spirituelle, elle est quotidienne, elle est de jour en jour, elle est de minute en minute, elle continue. D'accord? Tu veux grandir, Élodie? Ah, on va prier pour Rudy après le prêche. Ah, c'est Joanne? C'est encore pire. Donc l'autorité spirituelle, elle est de se dire, ben voilà, Seigneur, ok, j'ai un corps, j'ai une âme, j'ai un esprit. Alors ben, le corps, vous savez ce que c'est, d'accord? L'âme, eh ben, c'est tout ce qui est sentiment, c'est notre caractère, etc. Et l'esprit, c'est le relationnel avec Dieu. D'accord? Donc ça, c'est. Et après, vous avez l'espérance, la foi, l'amour. Attention, c'est moi qui ai inventé ça, entre guillemets. Hein. Mais j'aime bien cette idée de graphe. Je ne vous cache pas, là, pour mon expérience personnelle, et bon, vous voyez, je suis un petit peu costaud. Et je me suis inscrit il y a quelques mois de ça à Weight Watcher. Comme tout le monde. Ouais. Oh, les menteurs. Comme beaucoup. Et j'ai payé. J'ai payé. Et je comprends pas, je maigris pas. Je comprends rien, ça marche pas ce truc-là. Je m'inscris, je paye, je maigris pas. Mais en fait... T'as de la chance que j'ai pas entendu. Et en fait, derrière ça, il y a un travail à faire, il y a un prix à payer. Et j'ai pas pris conscience de ce prix à payer. On m'a dit, oui, d'accord, t'as payé, mais c'est pas parce que t'as payé que tu vas maigrir. C'est parce que tu vas travailler maintenant que tu vas maigrir. Et donc, il y a Pascaline qui m'enguirlande tous les jours en disant, bah, attends, t'as payé pour rien. Bah, je dis, normalement, je devrais être maigre. Eh ben non. Il y a un prix à payer. Ouais, enfin, bon, bref. Ouais, bah, c'est le sujet qui fâche à la maison. Il y a un prix à payer. Pour atteindre une autorité spirituelle ou une maturité spirituelle, eh bien, il faut qu'on soit bien. Par exemple, moi, dans mon corps, je suis pas bien. Je suis pas bien dans mon corps. Il y a un travail à faire pour atteindre cet équilibre, corps, âme, esprit. Peut-être que dans mon âme, j'ai des défauts de caractère. J'en ai pas beaucoup. Hein. J'ai des défauts de caractère à corriger, mais je les trouve pas. Donc, je peux pas. Je suis en équilibre avec mon âme. T'as de la chance, j'ai pas envie de répondre. Etc. Dans quel domaine, ou domaine avec un S ou sans S, mais dans quel domaine est-ce que tu n'as pas trouvé cet équilibre? Où est-ce que ça pêche? Où est-ce qu'il y a un endroit, là, ce petit endroit, qui t'empêche de rentrer dans cette autorité spirituelle? Qui t'empêche de rentrer dans cette maturité? Qui t'empêche de grandir? Peut-être pas aussi vite que tu le voudrais. Je dis pas que tu grandis pas. Qu'on ne grandit pas, parce que je me mets dans le même seau. Bon, moi, il n'y a que le corps, hein, le reste, ça va. Mais où est-ce que ça pêche? Où est-ce que ça pêche? Cette photo, elle est amusante. Bon, au-delà d'être amusante, donc vous avez reconnu Nicolas. Vous n'avez pas reconnu Nicolas? C'est sa mère. Tu es quand même sa mère. Est-ce que c'est parce que Nicolas a un masque de Hulk que ça fait quelqu'un de fort? Est-ce qu'il est Hulk parce qu'il a un masque de Hulk? Vous avez reconnu, c'est Hulk, hein? Oui, ça va. Mais est-ce que ça fait de Nicolas Hulk? Est-ce qu'aujourd'hui, il est capable de dire, ben moi, maintenant que j'ai le masque de Hulk et les gants de Hulk, je vais pouvoir me confronter à des gros balèzes? Je ne vais pas citer de nom, mais des gros balèzes. Non, parce qu'il a juste le masque. Il a juste le masque. Est-ce qu'on n'a pas envie, chacun, ici, d'enlever des masques, des fois, de se dire, voilà, eh bien, ma maturité, elle va passer par, déjà, le fait d'enlever un masque. Et d'être moi-même, et de dire, Seigneur, je viens à toi tel que je suis. Il y a un chant comme ça, tel que je suis, sans rien à moi. Ça, c'est pour les vieux, hein, de plus de 40 ans. Ben, t'as plus de 40 ans, Élodie. Ah, t'as qu'à pas te mettre au premier rang. Je prends toujours un souffre-douleur au premier rang. Et la maturité, c'est ça. C'est de dire, voilà, Seigneur, ben, j'ai envie de ça, j'ai envie d'enlever ce masque. J'ai envie d'enlever ça. Parce que ma maturité, elle est dans ce sens-là. Parce que je veux vraiment rentrer dans cette plénitude, dans cette plénitude de cette formule, entre guillemets, magique, j'aime pas le terme magique, mais bon, c'est pas abracadabra, j'ai une baguette magique, mais de dire, voilà, si je grandis dans la foi, si je grandis dans mon espérance, et si je grandis dans mon amour, eh bien, c'est là où je vais déjà gagner quelque chose. Et bien évidemment, ce que je disais juste avant, le corps, l'âme et l'esprit, l'esprit est important, parce que c'est là le cœur de notre relationnel avec Dieu. C'est là, pardon, c'est dans mon esprit où je vais être dans cette communion avec Dieu, où si ma communion avec Dieu grandit, eh bien, il va m'aider dans les autres domaines. Et puis mon âme, eh bien, c'est de dire, bah, peut-être que je suis, ça ne me concerne pas, hein, je suis peut-être colérique, je suis peut-être, orgueilleux, je suis peut-être, j'en ai peut-être pas non plus conscience. Peut-être que tu n'en as pas conscience. Eh bien, ça, on va prier pour que Dieu te révèle. On peut prier pour ça. Et on va prier pour ça après. Pour que Dieu te révèle les endroits précis de ta vie dans lesquels tu dois travailler, dans lesquels tu vas faire en sorte de te dire, bah, Seigneur, si c'est ça qui m'empêche de grandir comme toi tu le désires, eh bien, fais-m'en prendre conscience. Et une fois que j'en aurai pris conscience, alors peut-être que tu en as déjà conscience, mais à partir du moment où j'en aurai pris conscience, eh bien, je vais travailler dessus. Et je vais faire en sorte que je puisse changer. Et à partir de là, je vais rentrer dans cette autorité spirituelle, corps, âme, esprit en équilibre, avec l'interjonction qui va être de dire, eh bien voilà, foi, espérance, amour. Amen. C'est beau, j'aime bien ça. J'aime bien ça, j'aime bien cette notion de se dire, Seigneur, c'est pas fini avec toi. Il y a un commencement, alors c'est vrai quand on regarde un dessin animé ou un film, il y a un début, il y a une fin avec une chute. Mais des fois, vous avez des films où il y a la chute, où vous devez vous-même imaginer ce qui pourra se passer, où il y a des films qui vous disent, ben voilà, c'est filmé de telle sorte que vous savez pertinemment qu'il y aura un numéro 2. Et à la fin du numéro 2, vous aurez un numéro 3. Et bien avec Dieu, c'est ça. C'est vous regardez le film et vous êtes dans le film de votre vie et arrive un moment où vous arrivez à la fin d'une épreuve et puis peut-être qu'une autre commence. Bon, là-dessus, je ne vais pas vous donner le bourdon, hein, ce n'est pas le but. Hein. Mais il y en a une autre qui commence et vous vous dites, bah là, il y a un autre épisode qui arrive. C'est les épisodes d'une vie où Dieu est là et Dieu veut t'aider. Dieu est un Dieu d'amour. Et c'est là où on peut en venir, c'est que cet amour, non seulement Dieu l'a pour nous et il n'a pas de chouchou, ça j'arrêterai pas de le dire, mais il n'a pas de chouchou. Ici, il nous aime tous au même degré. Il aime, il vous aime vous parce que vous êtes ici à l'église, mais il aime aussi celui qui est dehors, qui n'est pas à l'église. Il aime tout le monde, il a aimé tout le monde. Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde. Il n'a pas dit Dieu a tant aimé les chrétiens qu'il a donné son fils unique, il n'a jamais dit ça. Dieu aime tant le monde, il a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Il a aimé le monde. Ça veut dire qu'on est tous là à pouvoir avoir une croissance, une maturité, croissance, toujours le mardi soir à 20h, mais cette maturité, eh bien, il faut qu'on continue à l'acquérir, continuer à grandir, continuer tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pas fini. Et Paul le dit dans les épîtres, il dit, mais moi, je cours une course et j'ai pas fini ma course. Je cours jusqu'à ce que le Seigneur me dise, c'est bon, arrête-toi. Je vous rassure, il va jamais vous le dire. Mais Dieu veut qu'on court cette course. Tout à l'heure, je parlais avec quelqu'un qui vient d'arriver dans l'église et je lui dis, ben voilà, tu viens d'où ? Et il m'explique sa vie et tout. Et je dis, qu'est-ce que tu faisais dans l'église où tu étais avant ? Il dit, voilà, je faisais ça. Je dis, mais c'est génial. C'est génial. Parce que ça, eh bien, peut-être que tu pourras l'utiliser ici. Peut-être que le Seigneur va t'utiliser pour ça ici, etc., etc. Voilà, il y a cette continuité, c'est pas parce que quelqu'un quitte une église où il avait un rôle que dans l'église d'après où il va aller, le rôle sera peut-être différent, mais il va continuer à travailler pour Dieu. Il va pas s'arrêter et se dire, voilà, j'ai changé d'église, donc je me mets sur ma chaise et j'attends que ça vienne. Il y a cette maturité, il y a cette croissance, il y a cette envie, ce goût de toujours continuer, toujours avoir cette course et de faire comme Paul, de dire, Seigneur, eh bien moi, même si j'ai une épine dans le pied, eh bien je continue ma course. On peut être boiteux, hein. On peut être boiteux par rapport à ce que je disais. Mais à partir du moment où on a un équilibre dans notre vie spirituelle, dans notre autorité spirituelle, Dieu va nous donner des victoires. Dieu va nous donner des grandes victoires. Et si on imagine Dieu comme un petit Dieu, ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit celle-là. Si on imagine Dieu comme étant un petit Dieu, on aura des petites victoires. Et si on imagine Dieu comme un Dieu immense, pour un Dieu pour qui rien n'est impossible, si on a ça dans notre tête, eh bien, on aura des grandes victoires, on aura des victoires proportionnellement à la grandeur de Dieu. D'accord. Amen, je vais le dire. Matthieu, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, Matthieu 16, 18. Donc, Madia, elle aurait dû être un peu avant. Non, juste avant Nanette, reviens. Et moi, je te dis que tu es Pierre, Pétros, et que sur cette pierre, Pétra, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Waouh. Moi, j'aimerais bien que le Seigneur me dise ça. Non, j'aimerais pas. Mais c'est incroyable, cette parole. Incroyable, incroyable. Donc, les trois étapes. Les trois étapes du chrétien, on peut dire que c'est du chrétien. Il y a les chrétiens qui se plaignent toujours et qui sont dans l'étape 1. Et voilà, ils ont toujours un joug sur eux et qui n'ont pas pris conscience de l'autorité spirituelle qu'ils peuvent avoir. Ils n'ont pas cet équilibre, cette foi, cette espérance, cet amour en Dieu et pris conscience de l'amour que Dieu a pour eux. Et ils sont toujours dans cette situation. Ils sont chrétiens, mais ils sont toujours sous le joug à se dire, voilà, j'ai dans mes épreuves et je ne m'en sors pas de mes épreuves. Attention, ça peut être un défaut, mais ça peut être quelque chose dont ils ne sont pas conscients. Ou ça peut être aussi un état de fait où nous, on a besoin, si on est dans la troisième étape, on a besoin d'aller les voir pour leur dire « Mais maintenant, je vais t'aider. » Parce que Dieu a mis en moi des talents que je vais pouvoir utiliser pour que ta vie change, pour que tu ne sois plus ce chrétien qui est toujours effondré, qui est toujours au sol et qui ne sait pas comment s'en sortir. Alors, il y en a qui se complaisent dans cette situation. Il y en a qui s'y complaisent. Un jour, on a voulu prier avec une personne qui était dans une chaise roulante. Et la personne a dit non, je ne veux pas avoir la guérison. Elle ne voulait pas avoir la guérison, cette personne. Parce que si elle a été guérie, elle se levait de sa chaise, mais elle perdait ses allocations, elle aurait dû retourner travailler, etc. Elle n'avait pas envie d'avoir cette guérison. Et donc, elle était bien dans son fauteuil roulant. Et dans ces cas-là, bah, vous priez. Alors, on aurait pu avoir cette victoire, on aurait très bien pu, nous, par notre foi, la guérir. Et peut-être que Dieu lui aurait montré quelque chose. Mais voilà. Et donc, on a des chrétiens qui sont dans cette situation. Et ça n'a rien d'un jugement. Attention, il n'y a rien, il n'y a aucun jugement dans ce que je dis. Mais arrive un moment où Dieu dit, c'est bon maintenant, tu vas peut-être te lever, tu vas peut-être y arriver, et on va y arriver ensemble. Mais il ne faut pas que tu restes dans cette situation. Et puis, il y a ceux qui commencent ils sont dans cet état de se dire, ok, j'ai pris conscience que je dois rentrer dans cette foi, dans cette espérance, parce que je suis vraiment avec un Dieu d'amour, j'ai l'amour pour mes prochains, etc., je veux m'en sortir. Et donc, il est là, il est un peu chancelant, mais il dit, voilà, je veux m'en sortir, je combats jusqu'à ce que, parce que la victoire, elle est là. Et donc, on a des chrétiens qui sont dans cette situation. Et puis, il y a ceux qui ne sont pas comme ça debout parce qu'ils n'ont plus d'épreuve, attention, mais ils savent gérer l'épreuve. Oui, ils savent dire, les étapes 2 et 3 sont des personnes qui se disent « Ok, l'épreuve, elle est là. J'ai pris conscience que grâce à Dieu, je peux me sortir de mon épreuve et je peux avoir ma victoire. » C'est quoi ton étape? Tu en es où? 2? Je ne demandais pas de réponse, hein, mais maintenant je le sais. Ils sont dissipés au premier rang, mais c'est terrible. Côté gauche, hein. Enfin, pas extrême gauche. Enfin, je ne vais pas faire de politique, hein, mais. Il y a une parole dans la Bible qui dit que on est le temple du Saint-Esprit. Il y a aussi une autre parole dans la Bible qui dit que l'on peut attrister le Saint-Esprit. Et attrister le Saint-Esprit, est-ce que moi-même, j'ai pris conscience de ce qu'est vraiment attrister le Saint-Esprit? Comment réagit le Saint-Esprit quand je l'attriste? Est-ce qu'il pleure? Est-ce qu'il est colère? Est-ce qu'il est fâché contre moi? Est-ce que? Quels sont les domaines dans lesquels j'attriste le Saint-Esprit? Quels sont les domaines dans lesquels j'attriste le Saint-Esprit? Introspection? Solution? Me dire, Seigneur, voilà, je n'ai pas envie de t'attrister. Si vous êtes le temple du Saint-Esprit, on se doit de faire du ménage. On se doit de faire du ménage. Et le ménage, alors on a eu de la chance, c'est qu'on nous a prêté une remorque. Ah, merci Seigneur, et merci Paul surtout. Et cette remorque, elle a été vraiment très bénéfique. On a, juste pour la petite anecdote, on a déménagé dans une nouvelle maison il y a quelques temps de ça. Et puis on a récupéré des meubles, forcément des meubles qui ne vont plus dans la nouvelle maison. On a un garage grand, un grand garage, 36 mètres carrés. Plein comme un œuf. Et arrive un moment où on se dit, mais c'est un garage, il faut que ce garage ne soit pas un stock, il faut que ce soit un garage. Et donc, on a eu cette bénédiction, et merci encore à Paul, de nous dire, voilà, je vous prête ma remorque, et j'ai fait deux remorques, donc on a fait 5-6 mètres cubes de déchets hier. J'ai fait des voyages. Le mec, à la fin, il m'a dit, non, fini, je ne veux plus te voir. Mais la métaphore, elle est facile à faire. Notre maison, on se doit de la ranger. On a envie, avec Pascaline, de pouvoir ranger une voiture dans un garage. Un garage, c'est fait pour mettre une voiture dedans. Et toi, ta maison, elle est comment? Ton corps, tu es le temple du Saint-Esprit. Ton temple, il est comment? Est-ce que tu es en vrac et tu as besoin qu'on te prête une remorque pour que tu puisses faire du vide et puis dire, voilà, j'arrête d'attrister le Saint-Esprit dans tel ou tel domaine et pouvoir là aussi rentrer dans cette maturité? Où est-ce que ça va? Et puis, ben, tu as encore deux, trois petits trucs. Peut-être que c'est juste des papiers à trier dans ta maison, dans ton temple. Peut-être que tu as beaucoup plus de vide à faire. Et c'est là aussi où on va prier. Parce que Dieu veut des victoires. Dieu veut des victoires ici. Dieu veut des victoires ce matin. Dieu veut révéler des choses ce matin. Et Dieu, il veut. Moi, je suis sûr, et je parle en son nom, hein, mais je suis... Toute la Bible dit, Dieu veut des guérisons, il a mis des dons à notre disposition, il a fait en sorte qu'on puisse avoir des exemples avec à la fois Jésus qui faisait des miracles, les apôtres faisaient des miracles, les disciples faisaient des miracles. Il y avait des choses qui étaient tellement belles, on a vu on voit des exemples avec Moïse qui a la mer rouge qui s'ouvre en deux. Il y a des choses qui sont tellement magnifiques qu'on ne peut pas limiter Dieu et se dire c'est un petit Dieu avec lequel je vais avoir des petites victoires. Ce n'est pas le petit Jésus qu'on met dans la crèche. C'est le grand Jésus qui est ressuscité, qui a vaincu la mort. Et pour lequel aujourd'hui tu es là. Et moi je suis sûr qu'on a un Dieu qui veut ça. On a un Dieu qui veut qu'on balance des remorques. Je n'ai pas balancé la remorque, hein, j'ai juste balancé le contenu. Dieu veut qu'on fasse des remorques dans lesquelles on va pouvoir dire « Seigneur, ça j'ai vaincu. » Attention, c'est peut-être pas des remorques. Je reviens là-dessus, mais c'est peut-être pas des remorques. Parce qu'on veut avoir des victoires. Il faut qu'on rentre dans nos talents, il faut qu'on rentre dans nos promesses. Il faut qu'on rentre dans ces victoires de guérison, ces victoires de foi, ces victoires d'espérance, dans cet amour. L'amour de Dieu. Ça, c'est le thème d'un autre prêche, l'amour de Dieu. On va se lever, on va prier ensemble. On va prier. Je vais demander à Or si tu peux jouer un peu de clavier. Seigneur, je te rends grâce. Je te rends grâce ce matin parce que tu es un Dieu tellement grand. Donne-moi, Seigneur, de prendre conscience de ta grandeur. Mais je suis sûr qu'avec un esprit humain comme on a, eh bien, c'est pas possible. C'est forcément dans le milieu spirituel, dans le domaine spirituel, où on va prendre conscience, Seigneur, de ta grandeur. Où pour toi, rien n'est impossible. Ou même les situations les plus enchevêtrées, les plus les paniers de crabes, comme on dit, eh bien, Seigneur, toi, tu es capable d'aller mettre de l'ordre dedans. Seigneur Jésus, moi je veux croire que ce matin tu as parlé à nos cœurs. Et maintenant je veux te demander, Seigneur, de sceller ces paroles. Que les cœurs puissent être ouverts, Jésus, et que tu graves toutes ces paroles, que tu puisses graver ce prêche dans chacun de nos cœurs. Que l'on garde, Seigneur, en tête d'avoir cette maturité pour toi et avec toi. Que l'on puisse continuer, Jésus, à grandir parce que tu veux des hommes avec une stature d'homme fait. Tu veux des femmes avec des statures de femmes faites. Tu veux, Seigneur Jésus, qu'on soit des guerriers glorieux. Des guerriers, Seigneur, qui soient plus que vainqueurs. Parce que ta parole, elle ne dit pas qu'on est vainqueur, elle dit qu'on est plus que vainqueur. Seigneur Jésus, moi je veux avoir cette plus que victoire. Je veux avoir cette plus que victoire. Je veux pouvoir rentrer dedans et de pouvoir me dire, Seigneur, que c'est toi, Seigneur Jésus, qui permet que lorsque j'ai lâché les armes, lorsque j'arrête de lutter par mes propres forces, eh bien toi tu prends le relais. Alors Seigneur Jésus, interviens maintenant, interviens dans les cœurs. Seigneur Jésus, je te réclame maintenant, Seigneur, à ce que tu puisses nous révéler des choses, à ce que tu puisses guérir, Seigneur Jésus, des cœurs qui ont besoin maintenant d'être guéris, des corps qui ont besoin d'être guéris, Seigneur, que tu puisses nous permettre, Jésus, de rentrer dans cette victoire. Oui, vraiment, je te loue, Jésus, je te loue, Seigneur, parce que tu es tellement bon, Jésus, tu es tellement bon. Je voudrais prier maintenant avec les personnes qui ont envie de ça, soit les personnes qui connaissent des défauts dans leur vie et qui veulent qu'on prie pour ça.